Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. Nous allons consacrer la séquence d'aujourd'hui à la bujade hier en basse marche. Et la bujade, c'est la lessive. Pour cette séquence, l'été roman Printemps et l'enfant sous les charmes, Marcel Reynaud, le Bugédo avant 1914, Ribière des Raverlas, la monographie de Tia, Albert Gourceau, la société rurale en Limousin et basse marche, et Jean Leur, un parfum de récré.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Paul Lavergne nous parle ainsi de la bujade, de la lessive, dans l'enfant sous les charmes. Grand-mère Miette savonnait du linge dans un coin du hangar. Déjà les torchons, les draps et les chemises mitonnaient dans le cuvier et l'odeur de la lessive se répandait dans la cour. « Je profite de cette belle journée pour rincer la couleur, » dit Miette. « Tu m'accompagneras, Doudy. Nous descendrons au rio sec. Ne crains pas de t'y ennuyer, l'eau qui coule parle comme une personne. Tu écouteras son babil. » Sitôt qu'on eut déjeuné, grand-mère commença ses préparatifs. Elle tordit les chemises rayées de grand-père, les tabliers, les bas, les jupons, les flanelles, les roula en un paquet qu'elle jeta sur son épaule. Puis elle prit la planche à laver, le savon, le battoir. Elle n'oublia pas de mettre le bleu dans la poche de son tablier et de suspendre une bassine à la patte de la planche. Doudy emportait dans un petit panier un chanteau de pain et une fiole de piquette. Il lui semblait qu'elle partait pour une expédition de plusieurs jours. « Nous sommes arrivés, » dit Mémé. « Assieds-toi à l'ombre des vergnes. » Le rio sec serpente au bas d'une prairie qu'il partage en deux versants. À la cime, de chaque côté du terrain, les blés bruissent et brasillent. En bas, dans cette espèce de vallon piqué de bouquets d'aulnes, l'herbe repose le regard. Grand-mère a jeté son paquet, installé la planche, elle s'agenouille et tape déjà du battoir. L'écho lui retourne son bruit amplifié et pourtant moins sonore. On dirait que deux autres laveuses sont cachées derrière les coteaux. Mais l'enfant s'ennuie vite et la grand-mère lui propose de prendre son goûter. La grand-mère dit alors « Je n'ai plus qu'à passer au bleu maintenant. » Le bleu, c'est une boule de bleu d'outre-mer artificielle inventée en 1828 par un chimiste lyonnais, Jean-Baptiste Guinet. On utilisait ces boules de bleu en lessive pour raviver le blanc du linge. Le lendemain, on revint au ruisseau rincer le blanc de la lessive. Doudy, l'enfant, pour sa part, se mit à imiter sa grand-mère et à laver son mouchoir. Doudy crispe les doigts sur le gros savon gluant, elle le passe lentement sur le mouchoir, et tout à coup, le savon glisse et l'on entend « plouf » comme un poisson qui retombe après un saut vers une mouche. Cela s'est fait si vite que Doudy s'en est à peine aperçu. Le savon est une denrée rare et coûteuse à cette époque, et pour cette perte, l'enfant va recevoir une belle fessée. La lessive dont nous parle Paul Lavergne est ce que nous appellerions quasi une lessive ordinaire. Mais dans le passé, à la campagne, il y avait les grandes lessives. Nous empruntons ce récit à Marcel Leroux dans son article « Le Bugédo » avant 1914.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
En général, les bonnes maisons, celles qui possédaient beaucoup de linge, faisaient deux grandes lessives par an, à l'automne et au printemps. Cette grande lessive, ajoute Albert Gourceau, constituait un événement important dans la vie de la campagne. On choisissait le printemps et l'automne, s'il était d'usage de faire deux lessives annuelles, lorsque la température est encore douce et que les grands travaux, ou bien ne sont pas commencés, ou bien sont terminés. Le mois d'avril avait beaucoup de préférence, car les gazons sont encore frais pour y étendre le gros linge de toile bise qui blanchit d'autant mieux que la rosée matinale est encore abondante. Et Marcel Desraux de poursuivre. C'était une affaire qui se préparait d'avance. Il fallait prévoir le bujadier, grande cuve que possédaient seuls quelques privilégiés, avec l'installation adéquate. Ensuite, retenir la femme capable de bien couler la lessive. Puis, les laveuses, une demi-douzaine au moins. Surtout chez mon oncle, le boulanger, où il y avait en plus les linges du fournil. Il fallait aussi, dans la mesure du possible, prévoir le temps, consulter le calendrier, tenir compte de la lune et avoir la chance pour soi. Enfin, le jour arrivé, ma tante, de grand matin, vidait ses armoires, tout y passait, même le linge qui n'avait pas servi depuis la lessive précédente. Et le tout était emporté, au moyen d'un charretout, vers le lieu de la lessive. Le matériel était relativement simple. Un cuvier, appelé bujadier, puisqu'on y faisait la bujade, et une grande cuillère en bois, un panloup. Il était installé dans une remise possédant un foyer et une cheminée qui servait de buanderie. Dans le fond du bujadier était placé un sac de cendres de bois, puis les draps, les torchons, le linge de table, le linge de toilette et enfin le linge de corps. Dans le foyer de la cheminée du local, une grande marmite sur le feu contenait de l'eau chaude. Cette marmite était reliée au bujadier par un tuyau de fonte qui permettait le va-et-vient de l'eau entre la cuve et la marmite. Le bujadier était une cuve en terre noirâtre, à ventre très arrondi, d'une capacité allant d'une soixantaine de litres pour les petits modèles à 300 litres pour les plus grands. À sa base, le cuvier était percé d'un trou de 4 à 5 cm de diamètre destiné à permettre l'écoulement du lessif. Les petits modèles étaient posés comme nos lessiveuses en tôle galvanisée sur de simples trépieds, mais pour les cuviers de grande capacité, il était nécessaire de construire un four en maçonnerie avec cheminée de tirage. On achetait les bujadiers à la foire, aux toupiniers ou marchands de toupies qui vendaient en même temps des toupines à graisse et d'une manière générale toute la poterie et la vaisselle de terre. En basse marche, la quasi-totalité des bujadiers venait de la commune de Tia.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
C'est à Tia qu'étaient fabriqués pratiquement tous les cuviers appelés bujadiers de la basse marche. On les fabriquait en argile. En effet, l'argile des fosses près du hameau du Ratier, mélangée dans une proportion déterminée à celle du champ de la terre et de la grande lande, qu'il fallait savoir reconnaître et extraire de filons parfois très minces, composait une pâte grasse, fine, légèrement ferrugineuse, très malléable et non moins résistante à la cuisson. En fait, cette argile jaune renfermait du mica, de l'alumine, de l'oxyde de fer et une toute petite proportion de sable. La terre de Tia est une des meilleures et la poterie que l'on en faisait autrefois était d'excellente qualité. Ces poteries, qui prenaient une couleur très foncée à la cuisson, ont la propriété d'être très résistantes au feu du foyer et sans goût désagréable. On les utilise pour cuire une soupe ou une daube, pour chauffer la crème, mais surtout pour la bujade, pour la lessive. Ces bujadis d'environ 1 mètre de haut furent exportés sur de longues charrettes dans tout le nord de Haute-Vienne, mais encore en Touraine et en Périgord. On ne fera, lit-on dans la monographie de Tia, jamais de meilleure lessive blanche, effleurant agréablement le parfum hygiénique qu'en ces grands bujadis que l'on voit dans presque toutes les maisons rurales limousines.
petites et grandes histoires de la basse marche.
Pourquoi placer des cendres dans le bujadier? Parce que les cendres, sous l'action de l'eau chaude, libéraient des sels de potasse, du carbonate et du chlorure de potassium qui traversaient et nettoyaient le linge. Cependant, toutes les cendres ne conviennent pas. On préfère celles du chêne et l'on évite celles du châtaignier qui, au contraire, auraient teint le linge. Les cendres devaient être passées au tamis pour obtenir une cendre gris clair, fine et soyeuse au toucher. Chaque laveuse avait ses secrets. Certaines écrasaient dans les cendres des coquilles d'œufs, d'autres utilisaient des orties pour qu'elles donnent ce bel œil bleu qu'on cherche dans l'azurage. Par la suite, dans les lessiveuses en tôle galvanisée, on remplacera les cendres par le savon qui deviendra moins rare et moins coûteux. Le coulage. Dès que la lessive était montée, c'est-à-dire lorsqu'on avait empilé le linge, en plaçant au sommet de la pile les fameuses coiffes soigneusement enveloppées dans un linge spécial, une fois donc la lessive montée, on garnissait le cuvier d'une quantité d'eau correspondante au volume du linge mis à tremper, et on allumait le feu. Au bout d'un certain temps, l'eau se mettait à bouillir. On débouchait alors légèrement le tampon du bas du cuvier et le lessif bouillant commençait à couler doucement dans un baquet placé juste au-dessous de cette ouverture. Lorsque le baquet était plein aux trois quarts, il était temps de procéder à l'arrosage. À l'aide de la grande cuillère en bois, le panlou ou coule lessive ou puisette, on puisait le lessif dans le baquet et l'on arrosait le linge à la main. Il fallait que l'eau soit bien à point, pas trop chaude, pour ne pas brûler le linge, mais assez chaude pour le bien décrasser. Souvent, on réalisait cette opération 9 à 10 fois de suite. Puis l'on attendait que l'eau se remette à bouillir pour recommencer une série de 9 à 10 arrosages. Et parfois, cette opération du coulage durait des heures et des heures, voire toute la journée. C'est dire l'ampleur du labeur. Si l'ouvrage n'était pas terminé quand tombait le soir, pour retenir la chaleur et retenir dans le linge la vapeur active pendant la nuit, on couvrait le bujadier avec des sacs à grains, des couvercles de paille de seigle ou des couvertures. On comprend les progrès que représentait le système de la pomme de la lessiveuse à champignons ou à boules, lessiveuse en tôle galvanisée qui se généralisera dans nos campagnes après la Seconde Guerre mondiale.
Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, en chaussons dans leurs sabots, elles poussent toutes leurs brouettes, leurs charlottes sur la tête, lancent le linge et puis trempons, trempons le linge, savon, savon, et maintenant bâton, bâton, battons le linge toutes en rond. Lave, lave, frotte, frotte, frappe, frappe avec ton battoir.
Lave, lave, frotte, frotte, frappe, frappe avec ton battoir.
Lave, lave, frotte, frotte, frappe, frappe, laveuse du lavoir.
Lave, lave, frotte, frotte, frappe, frappe, laveuse du lavoir.
Le rinçage maintenant. Le lendemain, on pratiquait le retirage. On sortait le linge que l'on plaçait sur des tréteaux, puis 6, 7 ou 8 solides lavandières partaient en poussant et tirant des charretous pleins de linge mouillé et un peu roux du lessif, mais qui n'allait pas tarder à devenir très blanc sous l'action conjuguée de l'eau claire, du savon de Marseille et des solides poignes des laveuses munies de leur battoir. Pour faire rendre au linge tout le lessif dont il s'est égorgé, il était nécessaire de faire ce rinçage dans une eau claire et abondante. Si pour les lessives ordinaires on pouvait utiliser les lavoirs, pour les grandes lessives, on préférait les ruisseaux et les rivières aux eaux vives. Le rinçage du linge constituait un travail très long et très pénible que la ménagère n'aurait pu exécuter seule. C'est la raison pour laquelle elle prenait soit des journalières, soit quelques voisines auxquelles elle rendait par la suite leur journée, la lessive constituant au même titre que la fauche, la métive ou la batteuse, un de ces travaux pour lesquels traditionnellement on s'entraidait d'une maison à l'autre. Lorsque la rivière était proche du village, on rentrait déjeuner rapidement à la maison et l'on repartait bien vite achever le rinçage, car il fallait que tout soit lavé le jour même. D'ailleurs, une vieille superstition disait qu'il fallait que la lessive soit lavée le jour même qui suivait la journée du coulage, sous peine de voir mourir le maître de maison. Lorsque la rivière était loin de la ferme, le repas de 10-11 heures et la collation étaient servis au pré. Une femme qui revient du ruisseau mangerait un homme tout vif, dit un vieux dicton limousin. Aussi, le soir, au dîner, quelle détente, quelle fête dans la cuisine faisant suite au magasin. Nos laveuses avaient grand faim, ma tante cuisinait bien et mon oncle versait généreusement à boire. À la fin du repas, les bonnets étaient un peu de travers et les langues se déliaient. C'était le moment des bonnes histoires et des chansons.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Qu'il s'agisse des lessives ordinaires au lavoir ou des grandes lessives, l'équipement de la laveuse est le même. Il y a le carrosse. Le carrosse, c'est une caisse en bois que la lavandière installe au bord de l'eau. Elle la tapisse de fougères pour ensuite s'agenouiller d'une manière plus confortable. La planche crantée sur laquelle on va battre le linge et le brosser avec une brosse à chien-dent. Mais bien des lavandières ne disposaient ni de planches crantées ni de boîte à laver. Elle se contentait de deux pierres plates, la plus longue inclinée vers la rivière, baignant dans l'eau, tandis que la plus courte, placée perpendiculairement à la première, servait à la laveuse pour s'agenouiller. Il y a le battoir. Le battoir est sans doute l'instrument le plus typique de la laveuse. Il est presque toujours en chaîne. Il permet de battre le linge après l'avoir tordu, afin d'en faire sortir l'eau savonneuse ainsi que l'eau de rinçage. Si l'on résume l'opération, la lavandière tendait le linge à bout de bras, le laissant flotter dans l'eau froide, le frottait et le pressait sur la planche avec la brosse, le rinçait en le tordant et en le frappant avec le battoir pour le débarrasser de l'eau de lessive. Tout en bavardant, car on dit « bavard comme une lavandière ». Chaque femme s'active car son ambition est d'empiler à sa droite le plus gros tas de linge qui témoignera de sa rapidité et de son habileté.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Les lavoirs maintenant. L'évocation suivante, écrit Jean Leure dans Un parfum de récré, concerne le lavoir situé sur la place des pénitents. C'est un grand bâtiment fermé, couvert de tôle, avec une ossature de poutrelles de fer. J'y croise parfois la Jeanne, une voisine qui est blanchisseuse et descend chaque jour son chargement de linge sur une légère brouette à claire-voie. Le vaste abri métallique résonne des séries de coups de battoir de bois auxquels se mêlent les voix et les exclamations des laveuses. Courbées sur les larges bassins, les femmes, aux manches retroussées, lancent avec force d'un mouvement ample leurs draps qu'elles ramènent ensuite en l'essorant avec des gestes de torsion au-dessus de l'eau qui prend une teinte savonneuse. Je ne m'attarde guère dans ce lieu de labeur bruyant et humide qui fait apprécier la condition masculine. C'est vrai que le lavoir est un lieu féminin. Le lavoir, c'est un bassin public pour laver ou plutôt pour rincer le linge. Le lavoir est alimenté en eau soit par une source, soit par un cours d'eau. Il est souvent couvert, mais dans les hameaux et les petits villages, il est le plus souvent à ciel ouvert. C'est un lieu de travail, mais c'est aussi un lieu de sociabilité. C'est une espèce d'agora où l'on entend le journal parler de la commune, du village. Au XIXe siècle, alors que le choléra, la variole et la typhoïde sévissent encore, la propreté devient un véritable culte. Les lavoirs se développent alors. C'est ainsi qu'en 1851, l'Assemblée législative a voté un crédit de 600 000 francs destiné à la construction des lavoirs publics. Tous nos villages, nos hameaux ont possédé, parfois possèdent encore, des lavoirs publics. Voici ceux qui sont les plus remarquables. Parmi les lavoirs couverts, ceux d'Arnac-la-Poste, route de Saint-Hilaire-la-Treille, de Château-Ponsac, de Montreuil-Sénart, au cœur du bourg, de Rancon, près de la Gartempe, de Drou, à l'entrée du bourg, de Niol, de Périllac, de Mortemart, route de Nouic, de Magnac-Laval, d'Oradour-Saint-Genès et de Saint-Pardoux, au cœur du bourg. Parmi les lavoirs à ciel ouvert, ceux de Baldan, au bourg, de Blond, route de la Couture des Aciers et à la de Gaillerie, de Comprignac, à Montaigu, près des ruines de l'ancienne chapelle, à Magnac-Laval, à la Villatte, à Roussac, près de la fontaine Saint-Martial, au Dora, près du camping, à Nouic et à Saint-Ouen-sur-Gartempe, à la Bussière-Opigny.
Au bord de la rivière, y a cordé la Vendière. Au bord de la rivière, y a cordé la Vendière. Trois coups de bateau, trois coups de savon, v'là comme les lavandières elles font. Au bord de la, au bord de la rivière. Au bord de la, au bord
de la rivière. Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous avons parlé de l'azurage qui consistait à ajouter dans l'eau de certains baquets de rinçage un sac de bleu contenant une poudre bleue provenant de l'indicotier ou de l'outre-mer, puis par la suite le fameux bleu chimique pour rendre le linge encore plus blanc. Le blanchissage, c'était une opération consistant à étendre le linge au soleil en plein champ et à lui faire subir une série de manipulations pouvant durer 2 à 3 jours. Le linge était étendu à plat sur le pré, arrosé à plusieurs reprises avec un arrosoir, retourné 2 ou 3 fois dessus-dessous. Pendant 3 jours, le soleil et l'eau achevaient de lui donner un lustre et un blanc très parfaits. Le linge de corps était mis à sécher sur les haies proches en prenant bien garde que les chemises d'homme soient bien étendues le col en bas afin d'éviter qu'il n'arrive malheur à leur propriétaire. Les draps, serviettes et torchons étaient donc étalés à même le pré. Le soir, avant la tombée de la fraîcheur, tout était soigneusement plié et compté. Draps et torchons étaient rangés tels quels dans la commode familiale, mais les serviettes et la lingerie n'y prenaient place qu'après avoir été repassés. Le repassage s'effectue alors avec des fers épais et lourds en fonte. Pour glacer le linge, on utilise des fers bombés. Pour les emmanchures, les bonnets, des fers à coque. Pour chauffer le fer, on le place sur la cuisinière ou même près du feu, dans la cheminée. Dans le roman « Printemps » de Paul Lavergne, on peut lire « Passons chez la Cathy pour qu'elle vienne vendredi laver la lessive. » La Cathy, avec sa bonne figure placide, reçut les visiteurs les mains ballantes. Mais quand elle sut la cause de leur venue, son ventre fut secoué de colère. « Ah non ! Elle ne laverait pas une lessive le jour du vendredi saint ! Non ! Elle ne mettrait pas son âme en peine pour avoir commis ce péché !» La Cathy voulait se gouverner selon l'habitude des chrétiens. « Vous pouvez chercher une autre laveuse !» concluait-elle, dans une furie pleine de regrets. En fait, il y a de très nombreux interdits concernant les lessives et les lavages. C'est ainsi que les lessives et lavages sont interdits pendant la Semaine Sainte, ainsi que pendant les 3 jours d'érogation et le jour des morts, le 2 novembre. Ajoutons qu'il ne fallait jamais battre le linge des bébés car cela leur donnerait des coliques, et qu'une lessive était obligatoire après chaque décès, mais elle ne devait comprendre que le linge du défunt, à l'exclusion de toute autre pièce. Nous allons terminer avec la légende des laveuses de nuit. Voici le récit que nous en fait Albert Gourceau. C'était des femmes condamnées à laver, la nuit, au clair de lune, du linge qui ressemblait à des cadavres d'enfants et qui ne serait jamais blanc. Elle ne fréquentait pas les rivières, mais certaines mares connues que chacun évitait. Pour ces femmes, ce travail était une pénitence qui leur avait été infligée pour leur mauvaise conduite ou une mauvaise action commise de leur vivant. Cette pénitence prenait fin lorsqu'elles avaient lavé ainsi un certain nombre d'années sans avoir été vues d'une personne vivante. Il était donc charitable de ne pas passer près de ces mares. Mais c'était en même temps une sage précaution, car certaines qui avaient été surprises alors qu'elles étaient sur le point d'être délivrées s'étaient retournées contre les témoins indiscrets et les avaient assommées à coups de battoirs.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai consacrée à la Bujade, hier, en basse marche. Nous l'avons fait en compagnie de Paul Lavergne, de Marcel Reynaud, de Ribière des Raverlas, d'Albert Gourceau et de Jean Leur. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Grand-mère et Soufflet, les Éoles, Maluzerne, la Tourbillante, le site Patika, les Lavandières d'Erki et à la danse des Lavandières que nous écoutons en ce moment. Je vous invite à nous rejoindre le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.